Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Notre personnage de la semaine, eh bien, c'est Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix au nez et à la barbe d'un certain Donald Trump. Iliana Guyochon.
Direction le Venezuela, un pays en crise depuis des années où l'espoir semblait étouffé par la répression et la peur. Et pourtant, une femme a décidé de tenir tête au pouvoir en place malgré les menaces et malgré l'exil intérieur. Elle s'appelle Maria Corina Machado, elle est chef de l'opposition vénézuélienne et elle vient tout juste de recevoir le prix Nobel de la paix 2025. Et si ce 10 octobre dernier le monde entier découvre son nom sur la scène d'Oslo, elle reçoit ce prix caché, menacé et traqué.
Yes, this is Maria Corina.
Yes, Maria Corina. My name is Christian Bergard Pekin. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025.
Alors c'est avec une voix étouffée par l'émotion que Christian Berg-Harviken, le directeur de l'Institut du prix Nobel, a annoncé par téléphone cette semaine la nouvelle à Madame Machado. Une femme politique qui, depuis effectivement des années maintenant, symbolise la résistance et le courage face à l'autoritarisme vénézuélien. Et pour comprendre son combat, il faut un peu de contexte. Le Venezuela est un pays riche en pétrole et situé en Amérique latine et qui a connu une grande prospérité dans les années 70. Mais cette richesse a rapidement laissé place à de profondes crises économiques marquées par la fin des subventions et des révoltes populaires, comme par exemple le Caracaso en 1988. Puis vient Hugo Chavez, inspiré de Simon Bolivar. Il est élu 10 ans plus tard et concentre le pouvoir entre ses mains, s'oppose aux États-Unis et se rapproche de Cuba. À sa mort en 2013, Nicolas Maduro lui succède. Et le pays sombre dans la pauvreté et la répression sur fond de corruption et de violation des droits humains. C'est dans ce contexte difficile que Maria Corina Machado grandit et construit ses convictions politiques. Elle est née le 7 octobre 1967 à Caracas, la capitale vénézuélienne. Maria Machado a étudié l'ingénierie et la finance et a connu une brève carrière dans le business. Mais très vite, elle se tourne vers les autres et en 1992, elle a fondé la Fondation Athénéa qui œuvre pour venir en aide aux enfants des rues de Caracas. 10 ans plus tard, elle cofonde Sumate, une organisation dédiée à la protection des droits civiques et surnommée la Dame de Fer vénézuélienne, c'est avec courage qu'elle a saisi un micro et a interrompu publiquement le président de l'époque, Hugo Chavez à ce moment-là, lors d'une session parlementaire. Et tout ça sous les yeux du banc chaviste.
El debate. Pero todavía no.
No, presidente.
A ver.
Presidente, tenemos 8 horas.
¿8?
Escuchando.
Ajá.
Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Allí hemos llegado al extremo. Hemos llegado.
Por favor, por favor.
Al extremo de escuchar qu'hay aumento en la producción de leche. Cuando...
Alors on peut entendre les huées derrière, mais jamais elle ne se découragera. Et son engagement la conduit jusqu'à l'Assemblée nationale avec un record de voix. Mais le régime la chasse brutalement de ses fonctions en 2014. Loin de se taire, elle poursuit son combat et dirige le parti d'opposition Vente Venezuela et contribue, en 2017, à créer l'alliance Soy Venezuela, qui rassemble toutes les forces pro-démocratie au-delà des clivages politiques. En 2023, elle annonce sa candidature à la présidentielle de l'année suivante. Sa notoriété a explosé lors des primaires de l'opposition, avec un résultat de plus de 90% des voix. Et son slogan ? Jusqu'au bout. Cependant, l'élection présidentielle du 28 juillet 2024 a été marquée par la fraude. Elle aurait dû être candidate, mais le gouvernement a bloqué sa participation, laissant Edmundo González la représenter. Le candidat remplaçant de Machado était donné vainqueur, mais Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013, s'est autoproclamé réélu avec 51,2% des voix, selon le Conseil national électoral, la CNE, également contrôlé par le chavisme. Les protestations ont éclaté partout dans le pays. Répression, arrestations, morts et ruptures diplomatiques avec plusieurs nations. Une annonce effectivement vivement contestée par l'opposition et par de nombreux pays qui accusent Maduro d'avoir volé la victoire. Après le vote, c'est d'ailleurs Madame Machado qui a appelé ses partisans à collecter les procès-verbaux de chaque bureau de vote pour prouver que l'opposition avait, selon elle, réellement gagné. Et depuis, elle a disparu des radars. Effectivement, depuis janvier, personne ne l'a vue en public. La dame de fer vénézuélienne refuse de quitter le pays, mais reste cachée car menacée. Et pourtant, c'est depuis cette invisibilité qu'elle vient d'être propulsée sur le devant de la scène internationale. Mais Maria Corina Machado reste une figure controversée. Elle n'a pas hésité à boycotter plusieurs élections locales et régionales, ni à réclamer une intervention internationale pour faire tomber Maduro. Mais le comité Nobel norvégien a choisi son camp et a souligné, je cite, « son travail infatigable pour les droits démocratiques du peuple vénézuélien et sa lutte pour une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie ». Alors une question subsiste, ce prix Nobel changera-t-il le cours de l'histoire du Venezuela ? Rien n'est moins sûr, mais une chose est certaine, avec ce Nobel, le monde regarde à nouveau Caracas. Et Marina Corina Machado reste un symbole du courage civique et de la lutte pour la démocratie dans un contexte extrêmement hostile.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
On a passé du temps à chercher dans nos vies un peu de couleur de soleil quand le ciel était gris.
Fallait qu'on se protège, qu'on évite les pièges.
C'est ce qu'on nous a dit.
Mais est-ce qu'on a réussi?
On s'est déjà tous égarés sur le chemin. J'ai besoin de quelqu'un qui nous tende la main. Il fallait qu'on nous dise que rien ne peut nous briser.
Si on avance ensemble,
il fallait qu'on fasse le monde de demain. À nous de changer décor.
Le monde de demain, chanson par le consortium des Enfoirés. Des Enfoirés, bien entendu, si vous ne savez pas, c'est groupement de musiciens au profit des Restos du Cœur en France. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Seconde partie donc d'Europa Voice, toujours avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, on va parler de dissolution maintenant, parce que c'est un mot qui a été jeté comme ça en peinture, avec pas mal avec en fait au final très peu d'explications. Pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui pour Emmanuel Macron de dissoudre cette assemblée quand on sent que ça fonctionne plutôt pas forcément correctement. On l'a vu dans la première partie de cette Europa Voice, on l'a vu aussi au gré des dernières semaines, c'est très compliqué en France. Pourquoi ne pas effacer ce Parlement et recommencer? Est-ce que c'est parce que, au final, les forces politiques sont si bien représentées au Parlement ce serait à peu près la même chose s'il y avait des élections demain?
La question, déjà, du point de vue d'Emmanuel Macron, la question de la dissolution ne pourrait faire potentiellement qu'empirer la situation déjà très instable du Parlement. Encore une fois, la dissolution, entre deux dissolutions et deux recompositions de Parlement, deux élections, il faut attendre un an. La dernière dissolution, les dernières législatives, Christophe, ont eu lieu en juin-juillet dernier 2024. Donc, c'est quelque chose qui est potentiellement faisable, qui ne l'était pas sous les précédents gouvernements post-juillet 2025. Maintenant, la question, c'est encore une fois, les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences, mais dans le cas de la dissolution, c'est aussi peut-être les mêmes causes entraînent des conséquences encore plus dommageables et encore plus compliquées. Là, la question, c'est de savoir alors qu'on a déjà trois groupes qui empêchent de dégager une majorité claire au Parlement, la question, c'est de savoir si ça va encore donner plus de poids, par exemple, aux extrêmes, moins de poids aux groupes centristes et ou laisser simplement ces trois blocs se regarder en chien de faïence. Donc, la question de la dissolution, j'allais dire, pour le groupe centriste, pour Macron, c'est pas vraiment une question. Du côté des oppositions, on est plus, j'allais dire, scindé. C'est-à-dire que du côté des extrêmes, la question de la censure du gouvernement le cornu et la question de la dissolution, évidemment, tous ces extrêmes, ces groupes extrêmes ont envie de renverser la table et ont envie d'y arriver. Alors que du côté, j'allais dire, des groupes parlementaires plus classiques, plus républicains, les Républicains ou le Parti Socialiste, encore une fois, ils risquent d'être encore un peu plus absorbés, encore un peu plus de disparaître s'il y a une dissolution. Donc, il y a un côté un petit peu comme ça, fantomatique de cette dissolution-là, c'est-à-dire que ça flotte dans l'air à chaque fois, mais ça ne contenterait véritablement personne, ou en tout cas, ça ne contenterait aucun des groupes parlementaires républicains, la gauche, le centre ou la droite.
Donc, si on résume, les deux extrêmes, gauche et droite, souhaitent une dissolution, le reste, pas vraiment. Est-ce que les deux extrêmes souhaitent réellement une dissolution? Parce que c'est assez simple d'être dans l'opposition et de crier sur tout et de crier au loup sur tout ce qui peut être mis devant vous. C'est autre chose d'être prêt à gouverner à un an et quelques à peine de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a un danger parce qu'on sait très bien que on voit d'ailleurs, et c'était une des clés du gouvernement Le Cornu, d'essayer de sélectionner des gens qui n'ont pas d'ambition présidentielle. On sait très bien que maintenant on est un petit peu en train de se mettre en randonnion pour pouvoir se placer pour l'élection présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas trop près de l'échéance présidentielle pour les extrêmes gauche et extrêmes droite d'arriver au pouvoir? Est-ce que ce serait pas trop compliqué? Est-ce que ce serait pas un peu une roulette russe à la fois pour le RN ou pour les LFI?
Alors, comme vous avez mentionné la roulette russe, j'ai commencé par le Rassemblement National.
Allons-y, ouais.
sans faire de mauvais jeu de mots. Parce que la situation est différente, Christophe, et pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, pour le Rassemblement National et pour la France Insoumise. Pour le Rassemblement National, si on observe un petit peu le paysage politique français, de ces derniers mois, en fait, il y a quelque chose d'assez finalement contradictoire. C'est-à-dire que moins le Rassemblement National ne parle, moins il est aux responsabilités et plus il engrange des points dans l'opinion.
Ah, ça, c'est flagrant. Ça, c'est flagrant. Et leur politique, elle est appliquée à la lettre.
Hein. Exactement. Et leur score d'être d'autant plus important. Donc, d'une certaine façon, le pire cadeau qu'on puisse faire au Rassemblement National, c'est de leur donner Matignon. Sans parler, évidemment, des contestations qui risquent de se lever à ce moment-là. Mais je veux dire, le Rassemblement National et Jordan Bardella ont presque peu, voire pas d'intérêt à entrer au gouvernement maintenant, parce qu'encore une fois, leur score dans les derniers sondages d'opinion ne fait que augmenter en vue des prochaines présidentielles. Donc pour le Rassemblement National, moi je dirais qu'il y a un petit peu un côté wait and see. Attendons et voyons comment on est placé à quelques mois de l'élection présidentielle sans forcément faire le forcing pour entrer au gouvernement. Du côté de la France Insoumise, l'idée, elle est un peu différente. Il y a quand même plus cette idée de renverser la table pour Jean-Luc Mélenchon de passer à une sixième république. Et puis surtout, il y a deux choses qui sont très différentes par rapport au Rassemblement national, c'est que le Rassemblement national, dans les sondages d'opinion, il arrive au pouvoir au deuxième tour de l'élection présidentielle et au pouvoir surtout sans l'aide de personne. Ils n'ont pas besoin d'alliance pour les législatives. Ils présentent des candidats étiquetés Rassemblement national. Du côté de la France insoumise, les auditeurs d'Europa Voice et d'SBS ne manqueront pas de voir que ces derniers jours, il y a eu beaucoup de débats entre la France insoumise et la gauche et Glucksmann pour savoir s'ils vont faire alliance ou pas, comment vont se placer les écologistes, est-ce que c'est du cas par cas, même pour les prochaines municipales de mars 2026. Il y a ça, premièrement, et puis deuxièmement, il y a quand même un plafond de verre, je dirais encore, pour la France insoumise en termes d'arrivée au second tour de l'élection présidentielle, parce que tout simplement, ça n'est jamais arrivé. Alors que le Rassemblement national, c'est déjà arrivé plusieurs fois, Christophe, ces derniers... Ils sont abonnés au second tour maintenant. Donc en fait, la situation est différente. C'est-à-dire que le RN, encore une fois, sans rien faire, a presque une garantie d'arriver au minimum au second tour de l'élection présidentielle. Ce qui est beaucoup moins sûr pour la France insoumise, d'abord, et puis c'est d'autant moins sûr que leur bloc de gauche pourrait s'effondrer, de toute façon doit s'effondrer du point de vue des socialistes si eux-mêmes veulent revenir au pouvoir. Donc je dirais que cette question de la dissolution, elle ne se pose pas vraiment pour le Rassemblement national. J'allais dire, le moins ils sont concernés par ce qui se passe, le mieux ils se portent. Par contre, pour la France insoumise, c'est une manière, et vous m'excuserez l'expression, de bordéliser encore un peu plus le bordel et justement de gagner peut-être des points, ou en tout cas de s'imposer en figure nécessaire et unique d'alternance maintenant déjà, avant les chances des présidentielles.
Donc il y a une extrême qui a besoin du chaos et il y a une autre extrême qui a peut-être besoin, qui a moins besoin de ce chaos.
Il y a une extrême qui a besoin du chaos, il y a une extrême qui proposera le chaos une fois qu'ils seront élus. Donc effectivement, on peut le résumer comme ça. Le seul bémol que je mettrais, mais alors ça c'est vraiment, j'allais dire c'est un cas un peu de Brutus et de César, Christophe, c'est si jamais Marine Le Pen veut griller Jordan Bardella, effectivement le meilleur cadeau qu'elle puisse lui faire à son protégé, au petit protégé du Rassemblement national, c'est de l'envoyer à Matignon. Parce qu'on le sait bien, et tous les premiers ministres le disent, aller à Matignon, c'est un moyen de vous garantir que vous n'accéderez pas à la prochaine présidentielle. C'est l'enfer de Matignon, hein, pour citer...
CF Édouard Balladur.
Voilà, c'est l'enfer de Matignon, si on veut citer ce très bon livre d'histoire politique récente. C'est vraiment, encore une fois, et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle Édouard Philippe, qui lui, pour l'instant, est candidat dans les rails, etc., alors lui, il a pris ses dispositions bien avant pour s'éloigner de Macron et pour s'éloigner de ce poste de Premier ministre qu'il a vu gagner, j'allais dire, quelques années en très peu d'années à Matignon. Donc, c'est peut-être le seul bémol.
Puis lui, pour le coup, il s'est vraiment fait des cheveux blancs, hein, on peut le dire. Hein.
Il s'est fait des cheveux blancs, non, dans son mauvaise blague. Mais donc, voilà, c'est peut-être la seule chose. Si vraiment, au sein de la famille de l'extrême droite, il y a des guerres de clans, c'est peut-être une option. Mais encore une fois, je vois pas l'intérêt du Rassemblement national de pousser pour soit une dissolution, soit pour entrer au gouvernement.
Et là, je vous mets juste un pavé dans la mare pour conclure cette Europa Voice. Et si jamais il y a une dissolution, et si jamais Marine Le Pen accédait au rôle de Premier ministre, puisqu'on sait qu'elle est probablement, enfin en tout cas, elle est sous le coup d'un jugement avec une éligibilité qui pourrait être mise en place avant l'élection présidentielle, est-ce que le coup de dire perdu pour perdu, on met Marine Le Pen en tant que Premier ministre, c'est plausible ou il y aura un certain ego qui fera que ça se passera pas comme ça?
Ce serait un signal, Christophe, quand même, parce que la cohabitation, rien ne vous oblige, encore une fois, on va le prendre dans ce sens-là, en France, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui choque beaucoup d'auditeurs australiens, francophones, c'est que vous pouvez nommer au gouvernement, et vous devez d'ailleurs nommer au gouvernement, des personnalités qui ne sont pas élues. Vous ne pouvez pas rester député et être ministre. Alors que dans le système anglo-saxon, le système au Royaume-Uni ou en Australie, pour être ministre, on se doit d'être élu soit député, soit sénateur. Donc en France, déjà, pour nommer un gouvernement, vous pouvez potentiellement, Christophe, nommer un gouvernement entièrement de gens qui n'ont jamais été élus. Quand De Villepin a accédé au poste de Premier ministre, il n'était pas élu. Il n'a d'ailleurs jamais été élu, Dominique Villepin. Et potentiellement, Dominique Villepin aurait pu nommer un gouvernement entièrement de personnalités de la société civile ou de politiques qui ne sont pas élus. Donc cette question aussi de la cohabitation avec Marine Le Pen, il y a quand même une grande partie qui est entre les mains d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il ne doit pas suivre forcément la couleur du Parlement. Le gouvernement, il doit refléter d'autres équilibres, des politiques, des orientations de politique générale, etc. Donc, s'il venait à nommer Marine Le Pen Premier ministre, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une grande partie de cette nomination qui serait de son fait et de sa volonté, et non pas contrainte par des règles, etc. Vous pouvez nommer Premier ministre une personnalité d'un groupe minoritaire à l'Assemblée nationale.
C'est pas forcément le chef du parti le plus populaire.
Non, donc en fait, ce serait quand même lourd de symboles et de responsabilités pour Emmanuel Macron de nommer Marine Le Pen Premier ministre. C'est pour ça que d'un côté, il y a ça, et puis d'un côté, le RN n'a aucun, encore une fois, intérêt. Donc, pas de boule de cristal, comme d'habitude, Christophe, à Europa Voice, mais je vois mal, en fait, pourquoi le RN accéderait à cette fonction et à une nomination au poste de Premier ministre.
Absolument, voilà. En tout cas, ça conclut l'Europa Voice numéro 169, et il y a presque certain qu'il y aura un certain nombre d'Europa Voice derrière qui vont suivre sur bien les méandres de la politique française et européenne. Merci Nathanaël.
Merci Destap.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi, tu courais toujours en vain. Ouais, tu aimais gagner ton temps dans les trop tard de tes 30 ans.
Love and Tendresse, dédié de Préto en ce dimanche. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Sur nos ondes, Nabila Aliane, qui est la directrice de l'Alliance française de Canberra, et Lou Bénard, qui est la responsable marketing. Bonjour à vous deux.
Bonjour, bonjour. Merci de nous donner l'occasion de présenter nos événements, nos activités à l'Alliance française de Canberra.
Absolument, et on va parler de ces événements culturels à venir, peut-être à commencer par le 20 octobre. Vous avez le vernissage de l'exposition Paris et les pays du Sud.
Effectivement, exactement, oui. Donc c'est un vernissage qui aura lieu ce lundi 20 octobre à partir de 18h30. Et c'est une exposition, donc effectivement, qui présentera sous différentes toiles. On a une exposition quand même de 50 œuvres, donc c'est une exposition conséquente. Donc, qui représentera Paris, effectivement, et la Provence, le sud de la France, une bien belle région. Et c'est une exposition qui sera à l'Alliance pendant 3 semaines. Donc voilà, le temps pour les personnes de découvrir ces belles toiles qui seront exposées.
Et un petit mot peut-être sur l'artiste en question.
Oui, alors l'artiste, c'est John Firth, c'est un de nos étudiants, et qui est aussi architecte. C'est la troisième fois qu'il vient exposer ses œuvres. Et d'ailleurs, oui, je ne l'ai pas précisé, mais ce sont des œuvres qu'on peut acheter. C'est une exposition, mais aussi avec la possibilité d'acheter. Si jamais on a un coup de cœur pour un tableau, on peut tout à fait l'acheter.
On enchaîne avec le 21 et le 28 octobre en ce qui concerne le ciné-club. Et je crois que c'est la projection du film, un film classique d'ailleurs, c'est Jean de Florette.
Exactement. Exactement, et c'est vrai qu'avec ce film-là, finalement, on reste toujours dans le sud de la France, puisque donc on projettera Jean de Florette, qui est effectivement un classique du cinéma français, qui se passe donc en Provence, dans le sud de la France. Et donc effectivement, on a donc la diffusion du film le 21 octobre, donc mardi prochain, et ce sera suivi la semaine prochaine, le 28 octobre, d'une discussion donc avec notre professeur Stéphanie. Et également, ce qui est chouette, c'est que c'est une projection de film, mais il y aura aussi un verre de vin qui sera inclus et de quoi manger également.
C'est ouvert au public ou juste pour les membres de l'Alliance française?
Non, non, c'est ouvert à qui veut s'inscrire. Il suffit de prendre directement son ticket sur le site internet ou de nous appeler si jamais les personnes sont intéressées.
On passe au mois de novembre. Vous organisez, d'après ce que je comprends, le French Market de Noël.
Tout à fait. Donc le 15 novembre, de 10h à 15h, on a donc le French Market qui est vraiment un de nos événements incontournables à l'Alliance française. Sur donc toute une journée, on aura une trentaine d'exposants qui vont venir vendre des produits. Alors ça peut aller du vin, de bouteilles de vin, en passant par de la nourriture, de l'artisanat, de la décoration, des bijoux, etc. Et donc voilà, une trentaine d'exposants. Et on a aussi des activités sur toute la journée. On a une tombola également. Donc vraiment, l'objectif, c'est de passer une journée festive, tous ensemble pour célébrer donc Noël aussi qui approche. Donc si jamais les personnes ont envie de faire aussi leurs achats pour Noël, c'est le bon moment de le faire à cette période-là. Et c'est un de nos événements que les gens nous demandent le plus. C'est la 10e édition déjà cette année. Donc c'est vraiment un événement d'ampleur à l'Alliance française que les gens attendent avec beaucoup d'impatience. Donc ne ratez absolument pas le French Market cette année encore.
Est-ce que l'Alliance française de Canberra organise un événement autour du Beaujolais au mois de novembre?
Exactement. Le 20 novembre, on a la soirée du Beaujolais, à la date d'ailleurs officielle du Beaujolais. Alors, ce n'est pas encore sur notre site internet pour l'instant, mais on va prochainement l'annoncer, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, le 20 novembre, à ne pas rater aussi, je vous signale que donc ça paraît, ce n'est pas non plus sur notre site internet ni sur nos réseaux sociaux pour le moment, ouais. Mais on aura en plus de tous ces événements-ci, deux cafés scientifiques, un en novembre, le 7 novembre et un le 3 décembre. Et donc ce sont des discussions avec des intervenants sur différents sujets. Pour le premier, ce sera sur la France dans le Pacifique. On aura une multitude de speakers avec nous. On aura notamment Éric Frécon, différents docteurs, des personnalités, comme un historien également. Donc voilà, tout est encore à confirmer. Mais en tout cas, très prochainement, il y aura plus d'informations sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, c'est quelque chose à ne pas manquer. On avait déjà eu un événement similaire en septembre avec le leader de la Patrouille de France, pour vous donner un petit peu en termes d'idée du type d'intervenant qu'on accueille. Mais voilà, c'est un autre type d'événement qu'on essaye d'avoir fréquemment à l'Alliance française. Mais on en aura un également sur les océans en décembre.
Donc c'est Save Our Oceans, c'est des courts-métrages sur l'océan.
Exactement, ce sera le 3 décembre.
Autre événement que j'ai peut-être raté?
C'est globalement ce qu'on aura en novembre et en décembre. Donc on aura effectivement le nouveau café scientifique, mais on aura aussi donc plutôt pour le mois de janvier, on va avoir après tout ce qui sera autour de l'été et notamment on organise toujours des camps de vacances, notamment pour les enfants. Donc, on en a eu un récemment pour le printemps. On aura un également à partir du 12 janvier pendant l'été. Mais on a également donc pour les enfants, mais aussi pour les adultes. On n'oublie pas les adultes aussi pour nos camps de vacances. Donc, on a aussi des cours pour les adultes à ce moment-là. Mais globalement, effectivement, c'est ce qu'on a récemment. Aussi, je signale que le terme 4, donc le nouveau terme, a commencé lundi dernier. Donc en tout cas, il y a toujours possibilité de s'inscrire aussi à l'Alliance française pour nous rejoindre et suivre des cours de français. Voilà globalement ce qu'on organise à l'Alliance française. Mais aussi, on peut vous signaler le 30 novembre prochain. Alors ça, ce ne sera pas l'Alliance française, mais c'est un événement auquel on participera, qui sera organisé pour la communauté française à l'ambassade de France à Canberra. Donc voilà, ce sera pour célébrer l'arrivée de l'été. Ça s'appelle le French Sounds of Summer. Et l'Alliance française aura un stand. Donc n'hésitez pas également, la communauté française est évidemment la bienvenue à cet événement qui célébrera la francophonie.
Et donc, on encourage les gens qui nous écoutent à garder l'œil sur afcanberra.com.au.
Tout à fait. Sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, on est notamment présents sur Facebook et Instagram si vous voulez rester au courant de notre actualité.
Eh bien, merci à vous et bonne continuation.
Merci beaucoup pour cette opportunité. À bientôt.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles. Tout s'est passé silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Zao de Sagazan avec Les Dormantes.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Annelie Zénin, qui est la directrice de l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Et on va parler des événements culturels à venir. Peut-être un petit mot sur les rendez-vous réguliers. Je pense au club de lecture qui arrive prochainement.
Oui, tout à fait. Donc le club de lecture arrive la semaine prochaine avec le livre de Franck Tilliez, Labyrinthe. Voilà, et on a hâte de d'en discuter.
Et puis, il y a le Ciné-Club également, avec la projection de plusieurs longs-métrages avec la Reine Margot.
La Reine Margot, ce sera le 30 octobre, le jeudi 30 octobre. Donc, je me souviens plus si je vous avais expliqué. Nous avons maintenant un partenariat avec le cinéma Mercury. Ouais. Et donc, nous faisons nos ciné-clubs au Mercury maintenant. Donc, pour offrir, un meilleur confort et une meilleure expérience de cinéma à tous nos membres et aux membres du Mercury aussi.
Et on profite peut-être pour signaler que l'Adélaïde Film Festival est en cours déjà avec plusieurs longs métrages en français chez vous.
Exactement. Ça a commencé, ça commence cette semaine. Et donc il y a trois longs métrages, dont un documentaire, qui sont à l'Adélaïde Festival, donc en langue française. Voilà, il faut se dépêcher parce qu'il y a beaucoup de sessions sold out pour le coup. Si jamais vous voulez y aller.
Et puis je reviens au rendez-vous régulier avec le rendez-vous du Café Croissant, c'est le matin du vendredi 31 octobre.
Tout à fait, toujours à Market Street Café, pas de changement là-dessus, donc on a des habitués et quelques nouvelles personnes, donc n'hésitez pas à vous joindre à ce rendez-vous.
Et puis on parle du mois de novembre, un rendez-vous pour l'apéro scientifique le vendredi 14 novembre chez vous.
Tout à fait. Le 14 novembre, on parlera de sécurité de l'eau avec le professeur Howard Fallowfield qui est basé à Adélaïde, le professeur Jérémy Prouvost qui sera en ligne mais qui a travaillé il collabore avec ce professeur également, et un point de vue un petit peu plus entreprise avec Julien Hanez. Donc qui a travaillé et pour SA Water et maintenant pour Osmoflow. Donc une expérience plus de terrain, je dirais.
Et puis ensuite, la semaine d'après, le vendredi 21 novembre, c'est le rendez-vous de la soirée Beaujolais.
Exactement. En fait, on combine un petit peu cette année parce qu'on avait, ça fait 2 ans qu'on faisait un French Wine Trail, une route des vins en s'arrêtant dans différentes régions françaises. On va clore ce cycle-là et donc on en profite puisque ce sera la période du Beaujolais nouveau. Alors, on ne reçoit plus le Beaujolais nouveau depuis quelques années, mais ce sera des vins du Beaujolais, ça par contre. Et on fera sans doute un petit quiz pour voir si les personnes qui viennent à nos dégustations ont bien suivi et sont capables de reconnaître tout ce dont on a parlé en 2 ans.
Et peut-être un petit mot sur les cours du 4e trimestre qui ont déjà démarré cette semaine.
Tout à fait. Alors, comme vous le savez, nous, on a un peu combiné les rythmes cette année. Donc, pour le 4e trimestre, on a démarré lundi. On a démarré la semaine dernière, pardon. On démarre la semaine prochaine parce qu'on a des sessions qui font que 8 semaines. Donc, on démarre la semaine prochaine pour les 8 semaines.
D'accord. Donc, voilà. Et peut-être un petit message à encourager les gens à venir visiter les locaux de l'Alliance à Adélaïde, à Wayville.
Bien sûr, de toute façon l'Alliance est toujours là pour accueillir tout le monde. On a plusieurs, comme on en a parlé, plusieurs événements qui se déroulent soit ici, soit sur d'autres sites. Les cours sont toujours bien suivis, donc n'hésitez pas à venir. D'ailleurs ce soir, nous avons un cours d'essai, donc on en fait régulièrement pour les nouveaux étudiants, les nouvelles personnes qui seraient intéressées par nos cours de français.
Merci à vous, Anne-Lise, et à très bientôt sur SBS en français.
Merci beaucoup. À bientôt.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Alors on va parler de Billy Hughes et c'est une première partie de l'histoire cachée donc de l'Australie avec Gregory Pless. Billy Hughes, le seul parlementaire australien à avoir siégé au Parlement pendant plus de 50 ans.
Vous avez expliqué comment toute cette période voit les pouvoirs du gouvernement fédéral s'accroître, mais on sait que cette période de la Première Guerre mondiale, elle a beaucoup marqué les Australiens. On avait consacré plusieurs épisodes à Anzac Day et ce que ça représente. Et vous nous aviez dit que ça a été instauré en 1915 et que c'est vraiment cet événement et cette commémoration qui a créé pour la première fois un vrai sentiment d'unité nationale et de distinction par rapport à l'Empire britannique et à Londres. Il a joué un rôle particulier, Hughes, dans tout ça.
Oui, tout à fait. Et je ne me suis pas encore lancé sur le côté international parce qu'on va y revenir. Il faut d'abord, je pense, poser les jalons. Et un de ces jalons, c'est effectivement ce contexte Première Guerre mondiale qui est absolument crucial à de très nombreux égards. La première chose qu'il faut dire, c'est que Hughes est totalement fidèle à la cause de la guerre. C'est quelqu'un qui est très remonté contre l'Allemagne, qui veut défendre l'Empire et qui donc veut envoyer des troupes. Et là, sous son mandat de Premier ministre, se passe une des campagnes les plus violentes politiquement en Australie au niveau fédéral qui s'était jamais déroulée, c'est celle de la conscription, parce que les Australiens sont volontaires. Et le problème du volontariat, c'est qu'en fait, y a très peu de gens qui se portent volontaires. Et donc, Hughes dit, on n'a pas assez de nouvelles recrues, on ne fournit pas assez d'hommes à l'Empire, comment on pourrait s'y prendre? Je souhaite instaurer la conscription. Or, la Constitution me l'interdit pour autre chose que de la défense nationale, c'est-à-dire sur le territoire australien. Donc, il organise un plébiscite pour pouvoir essayer d'avoir un momentum politique pour changer les règles. Et son parti se divise sur cette question. Se divise au point que le parti travailliste exclut son leader et premier ministre, Billy Hughes. Et vous pensez qu'il se serait dit, bon, mon parti me vire, j'arrête, je rentre, je me mets au pas, j'écoute. Non. C'est quelqu'un qui part en brûlant la maison et en sauvant les meubles qui peut. Et il part avec un certain nombre de fidèles et il s'associe à, grosso modo, un parti de centre-droit, de droite modérée, pour créer un nouveau parti qui est une sorte d'un peu d'union sacrée, si vous voulez, où le but, c'est de continuer la guerre et de donner suffisamment d'hommes australiens à l'armée. Et donc, ayant perdu un premier référendum en 1916, s'étant fait jeter de son parti comme un malpropre, il en réorganise un après une victoire électorale assez surprenante en 1917, et en fin 17 réorganise un second référendum, enfin plébiscite, où les Australiens disent non une nouvelle fois. Et là, ce qui est important de retenir, c'est que ces deux plébiscites, la division est, comment dirais-je, entre le oui et le non. Le non l'emporte, mais de façon très faible la première fois, un peu moins faible la seconde, mais le pays est divisé. Mmh. Il est vraiment divisé là-dessus, et c'est un moment, si vous voulez, qui a marqué les consciences australiennes, qui a un peu entaché le grand mythe de la Première Guerre mondiale, d'unité nationale, parce qu'en fait, non, c'est un pays qui est divisé et qui ne sait pas si elle doit forcer ses hommes à aller se battre ou pas. Et pendant ce temps-là, Hughes continue à consolider en fait son pouvoir et son équipe en l'élargissant. Et au même moment, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est souvent un premier ministre à distance. C'est-à-dire que pour défendre les intérêts de l'Australie, il est obligé de se rendre à Londres. Et à l'époque, il faut beaucoup de temps pour voyager. Et donc, on n'y va pas pour une semaine, comme on voit aujourd'hui, ou 4 jours. Il y reste plusieurs mois. Il participe à un certain nombre de conférences aussi, vis-à-vis de comment traiter l'Allemagne, quel sera le futur après la guerre. Et donc, il se forge aussi cette personnalité à dimension internationale et en parallèle, succès total avec les Australiens, il rend visite à plusieurs reprises aux soldats sur la ligne de front. Les soldats qui l'appellent d'ailleurs le petit digger. Le digger, c'est le nom australien pour l'équivalent du poilu.
Ouais.
Il a à la fois, si vous voulez, cette personnalité qui est attachante pour certains Australiens, de quelqu'un qui n'abandonne pas, qui va aller se battre, qui est un très bon orateur, quelqu'un qui sait aussi les représenter sur la scène internationale avec des figures politiques les plus importantes du moment, et en parallèle, quelqu'un qui est relativement bien aimé des soldats. Donc, il a quand même une assiette politique du fait de la population, tout simplement. C'est-à-dire que les Australiens le trouvent plutôt bon dans ce qu'il fait.
Et ce, malgré, comme vous le disiez, qu'il ait défendu ardemment une politique, en l'occurrence la mise en place de la conscription pour un conflit dans lequel l'Australie n'est pas directement impliquée, qui divisait profondément la société. C'est d'autant plus surprenant, du coup, qu'il ait joui d'une telle popularité. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On revient d'ici quelques jours pour aborder la deuxième partie de cet épisode consacré à Billy Hughes. On s'intéressera plus précisément à son bilan sur la scène internationale puisqu'il est l'un des premiers premiers ministres australiens à se faire remarquer et surtout à se distinguer en tant qu'Australien de la Grande-Bretagne. À très bientôt.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Les choses, je ne suis pas ton idéal.
être la femme de ta vie.
Et c'était Toutes les femmes de ta vie de Julien Doré en ce dimanche sur Radio SBS. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.au/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.au/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.